différents angles que Jésus s'est manifesté aux personnages qu'on peut lire dans l'Évangile de Jean. De sorte que nous aussi, nous puissions rencontrer Jésus. Nous puissions croire en lui. Nous puissions le recevoir. Et quand je crois et je reçois Jésus-Christ, Jésus-Christ vient dans ma vie et je suis transformé progressivement à son image. La semaine dernière, on a regardé l'évangéliste Jean lui-même. Il a rencontré Jésus. Un petit quiz de mémoire. Il a rencontré Jésus, puis pour Jean, Jésus s'était présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour Jean, il a compris que ce Jésus qui allait suivre était celui qui allait enlever son péché. Et il deviendrait par conséquent le sauveur de son âme. Ce matin, on va tourner au chapitre 3. Un chapitre absolument bien connu. Je disais aux journalistes la semaine dernière, c'est dans le Beauport Express, qu'on a choisi l'Évangile de Jean parce que, d'une part, à l'intérieur de l'Évangile de Jean, il y a le verset le plus connu de la Bible. Et il y a eu la gentillesse de l'écrire au complet. Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». J'étais content qu'il s'est rappelé de ça, de notre rencontre. Dans le chapitre 3, on va rencontrer une autre personne et Jésus va lui dire ce message de Jean 3, 16 à cette personne-là. On rencontre une personne maintenant qui est un personnage influent de la nation juive. Jean est un disciple de Jean-Baptiste. C'était pas très élevé dans l'échelle sociale des Juifs. Mais maintenant, on rencontre un personnage important. On rencontre un personnage très influent dans la société juive. Et cette personne-là, on va lui donner son nom, il s'appelle Nicodème, il nous est nommé dans les Écritures, il considère Jésus comme un docteur venu de Dieu. Et il va s'approcher de Jésus, puis il dit « docteur venu de Dieu », on sait ça, et Jésus va l'interrompre rapidement, et il va parler à cette personne très importante sur la nécessité incontournable du salut. On peut parler de bien des choses. Jésus aurait pu passer toute sa nuit de parler de théologie avec ce grand théologien Nicodème, d'activités religieuses, puis d'activités sociales, puis de textes bibliques. Mais on va voir dans le texte que Jésus le bloque tout de suite, puis il présente une chose qui est incontournable. Il faut que tu naisses de nouveau. Il va lui mentionner. Et de toute évidence, Nicodème a accueilli ce message-là dans sa vie. Il a accueilli le fait qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Il a eu besoin d'éclaircissement pour comprendre, mais il a accueilli ce facteur-là. Et Jésus est devenu non seulement un docteur venu de Dieu, mais il est devenu son divin maître. Et Nicodème est devenu son disciple de Jésus. Nicodème, on va le voir, il est passé d'une personne craintive. Craintive de qu'est-ce que les autres allaient dire de lui. Craintif du Sanhédrin et des religieux qui allaient dire « Hey, tu t'en vas voir Jésus? » Il est passé de cette notion de craintif à une position où il s'est devenu critique du Sanhédrin. Êtes-vous sûr que vous agissez bien envers Jésus? Et on va le retrouver dans l'Évangile de Jean, à la fin de l'Évangile de Jean, ce Nicodème qui va défier les autorités romaines, défie les autorités religieuses et il va être avec un autre membre du Sanhédrin, Joseph d'Arimathée, et c'est lui qui va descendre Jésus de la croix. Les images nous montrent souvent Marie qui descend Jésus de la croix, mais c'est pas ça dans la Bible. Dans la Bible, c'est Joseph d'Arimathée et Nicodème qui descendent Jésus de la croix. Et Nicodème, un des chefs du Sanhédrin, va avoir le courage de ses convictions et il va aller ensevelir Jésus. Nicodème est passé d'une personne craintive à une personne courageuse, jusqu'à risquer son rang social, sa réputation, sa vie même, pour s'identifier à Jésus. Et ce matin, je prie que Dieu illumine nos cœurs pour nous montrer non seulement la nécessité de naître de nouveau. Si pour vous ce matin, c'est un terme qui ne connecte pas avec une réalité dans votre vie, je prie que Dieu illumine vos cœurs. Et qu'il place sur votre cœur cette nécessité absolue. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et je suis conscient ici que la majorité des personnes ont déjà expérimenté cette nouvelle naissance. Et je prie que Dieu illumine nos cœurs alors, pour que nous puissions suivre le modèle de Nicodème. et peut-être passer des personnes craintives à partager notre foi à des personnes courageuses devant quiconque demande l'espérance qui est en vous de confesser le nom de Jésus. Vous avez trouvé Jean chapitre 3? On va lire d'abord le texte des 16 premiers versets. On va prier d'abord. Seigneur notre Dieu, encore une fois, ta parole est ouverte dans un texte qui est commun, qui est connu de bien des gens. Il est connu parce qu'il est tellement nécessaire et fondamental à notre foi. Je te prie, Seigneur, qu'encore une fois, par ton esprit, tu éclaires nos yeux, tu illumines nos cœurs, afin qu'on en comprenne l'essence et que, Seigneur, on puisse le vivre, qu'on puisse goûter à cette nouvelle naissance si ce n'est pas fait déjà. Et, Seigneur, qu'on puisse croître si nous sommes nés de Dieu. Et nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 3, je vais lire les 16 premiers versets. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répondit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? » en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Beau message de la part de Jésus à Nicodème. Nicodème va d'abord recevoir l'enseignement du Maître. L'enseignement du Maître venu de Dieu au docteur d'Israël. Jésus l'honore, hein? Il dit, tu es le docteur d'Israël. Tu es la personne qui peut enseigner Israël. Israël compte sur toi. Et tu sais pas ces choses. Nicodème avait entendu parler des miracles que Jésus avait fait en Galilée. Il avait entendu parler des miracles qu'il avait fait dans les fêtes juste avant. Si on avait regardé dans le chapitre 2, verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Il y avait plusieurs gens à Jérusalem qui ont mis leur foi en Jésus parce qu'ils voyaient des miracles. Mais Jésus, il nous a dit, ne se fiez pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus connaissait le cœur des gens. Il connaissait le cœur des gens qu'il y en avait qui s'associaient à Jésus parce qu'ils avaient vu des miracles. Mais là, il nous arrive au chapitre 3, mais il dit, mais il y en a eu une personne, par exemple, qui ne s'est pas juste arrêtée au miracle, qui a dit, t'es un docteur venu de Dieu. C'était un docteur venu de Dieu. Nicodème avait entendu parler des miracles. Il avait vu aussi Jésus, comment il avait nettoyé le temple. Il avait été témoin de cette intervention-là quand il avait chassé les vendeurs et qu'il a dit, le temple est la maison de mon Père, Jésus avait dit. Nicodème était un leader religieux d'Israël. Il était un pharisien, la Bible dit. C'était la secte la plus stricte d'Israël. Et Jésus honore la personne de Nicodème en lui disant « il est le docteur d'Israël ». Mais cet homme-là, bien que timide par crainte de défaveur, bien que timide pour aller le voir Jésus en plein jour. Ah, des gens ont dit, ben peut-être qu'il travaillait de 9 à 5 puis il n'avait pas le temps. Le texte insiste que Nicodème, en réalité, c'était Sanhédrin, c'était ça sa job, de voir ce qui se passe de façon religieuse, de courir après les nouvelles doctrines qui s'en venaient. Le Sanhédrin était responsable des activités sociales, des activités politiques, des activités religieuses d'Israël. Alors, si Nicodème avait voulu rencontrer Jésus de jour, il aurait pu le faire. Mais Jean nous dit plusieurs fois dans son évangile que par crainte des Juifs, les gens ne voulaient pas trop s'associer à Jésus. Et Nicodème a craint, par crainte de la défaveur des autres membres du Sanhédrin. Et d'un autre côté, tiraillé parce que dans son cœur, il sait, il est convaincu de l'autorité de Jésus comme docteur qui vient de Dieu. Il sollicite une entrevue de nuit. Ça me parle dans un sens, ce premier de cette notion-là. Nicodème, il a passé par-dessus ses doutes. Il a passé par-dessus ses craintes. Et la Bible a dit, il vint. Il est venu à Jésus. Il est venu quand même. Et ma question ce matin, première, est-ce que tu es venu, toi, à Jésus, avec tes doutes, avec tes craintes? C'est vrai, qu'est-ce qu'on va dire de moi si je m'attache à Jésus? Je vais-tu perdre ma position? Vas-tu perdre mes amis? J'ai des doutes, j'ai des craintes si je m'approche trop de Jésus. Il va me faire pointer du doigt comme un spécial, un marginal, un chrétien. Nicodème, il avait cette pression-là dans le cœur. Mais il est venu pareil. Es-tu venu à Jésus malgré tes doutes, malgré tes craintes? Jésus ne refuse personne une entrevue à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Si tu le cherches avec un cœur sincère, Jésus va t'ouvrir grand la porte. Je partageais, je distribuais des petits traités hier, une petite affaire, puis dans le fin fond, en quelque part, là, dans le fin fond, on est dans le bout, là, prof, là, dans ces secteurs-là, là, avant Boischatel, là, j'ai donné une affaire, puis le monsieur de 70 ans, il tondait sa pelouse, il arrête sa pelouse, puis on parle ensemble, puis on entre ensemble, on parle de Jésus, là, on a eu du bon temps avec lui. Il ne fallait pas rester plus que 3 minutes, si je vous demande pardon. On a resté un bon 5-10 minutes, mais ça n'a pas arrivé souvent. Mais il a dit, entrez, j'ai chaud, je vous offre une limonade. Hey, on ne pouvait pas refuser ça. Alors, on est entré. On a parlé de Jésus ensemble. On a parlé que Jésus, il voulait les rencontrer. Et il a dit, moi, il dit, des Jésus, j'en ai partout dans ma maison. Et il m'a montré un Jésus qu'il avait juste à côté de sa porte. Ce n'était pas un crucifix, par exemple. C'était une image qu'on voit en profondeur, là, et c'était Jésus qui se tenait à la porte et qui frappait. Et j'ai dit, « Hey, c'est ça que Jésus veut faire dans votre vie. » Et la Bible a dit, j'ai dit, « Savez-vous que ça, c'est un verset biblique qui est illustré? » Jésus a dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ah, il a dit, c'est pour ça. Il dit, je fais beaucoup de bénévolat avec l'Église catholique. Puis il dit, ils n'ont jamais voulu que je présente ça. En tout cas, je ne sais pas trop. Mais il a dit qu'il viendrait probablement vendredi soir. Il a dit, j'ai déjà été là, mais il m'a dit qu'il viendrait. Alors, je prie pour lui. Jean-Paul, son prénom. Jésus ne refuse jamais une entrevue à celui qui ouvre son cœur. En réalité, c'est souvent lui qui la sollicite. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il désire entrer. Il désire être reçu dans votre vie. Si Nicodème a fait une démarche louable, Jésus semble l'avoir confronté rapidement. Il me semble qu'il était bien parti, hein? Nicodème qui parle à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais ça me semble que ça devait être beau pour Jésus d'entendre ça. Oui, si tu savais comment je... Jésus aurait pu en prendre. Ça arrive pas souvent qu'il en a reçu des gens qui le flottaient du bon bord, hein? Il aurait pu en prendre. C'est vous qu'est-ce qui arrive? Jésus le barre tout de suite. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme de nouveau ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Je te dis qu'il s'en revire de bord assez rapidement à son histoire. Hein? Jésus interrompt la conversation pour lui présenter son besoin essentiel. Nicodème, si tu veux voir le royaume de Dieu, et je sais que tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, et je sais que tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il y a une chose nécessaire, incontournable, il faut que tu naisses de nouveau. Pour être sauvé, pour participer au royaume céleste de Dieu, il faut naître une deuxième fois. Quand on m'a dit ça la première fois, j'étais aussi surpris de Nicodème. Ça a dû être assez dur pour ma mère la première fois. Pourquoi est-ce qu'il faut une deuxième? Mais dans la déclaration initiale de Jésus, Jésus met rapidement un terme à toutes les espérances religieuses que Nicodème pouvait avoir pour avoir part, pour pouvoir entrer dans le royaume messianique. En lui disant, Nicodème, il faut absolument que tu naisses de nouveau. Jésus coupait l'herbe sur sa naissance physique. Bien des Juifs pensaient qu'ils allaient entrer dans le royaume de Dieu simplement parce qu'ils étaient enfants d'Abraham. Pas besoin de naître une deuxième fois. Je suis déjà fils d'Abraham. Déjà, j'ai ma porte ouverte. Et Jésus va bloquer ça. Ni sa naissance physique de descendant d'Abraham ne sauve. Pas plus que sa ferveur religieuse. Il est un chef religieux. Pas plus que son engagement dans la meilleure religion de l'époque. Je m'imagine que le judaïsme était la meilleure religion qu'on pouvait trouver sur la terre à ce moment-là. Et Jésus vient de lui couper l'herbe sur le pied en disant, c'est probablement bien ces choses-là, mais il y a une chose incontournable, il faut que tu naisses de nouveau. Ta piété, tes œuvres, ta bonne morale, ta justice, tes pratiques religieuses, ça ne sauve pas. On a besoin de quelque chose d'autre. Est-ce que c'est mauvais, les bonnes œuvres? Ben non. Je m'imagine que vous allez à la salle Albert Rousseau, puis qu'il y a un beau spectacle là, pour quelqu'un que vous aimez, puis vous allez assister à un beau spectacle, puis vous invitez votre épouse, puis vous arrivez à la salle de spectacle, et puis vous la personne qui est l'hôte, qui prend les billets, vous lui apportez un beau pot de fleurs. Puis vous dites, tiens, c'est pour toi, je m'en viens écouter un film. Le petit monsieur, la petite madame dans la box office, là, es-tu content de ça? C'est-tu mal de lui avoir apporté des belles fleurs parce que ce soir-là, vous avez un cœur désireux de faire le bien puis de sortir votre femme? C'est-tu mal de faire ça? Allez-vous rentrer? Moi, je pense que le monsieur va dire non. Ça coûte 22,50 $ le billet. J'aime beaucoup vos fleurs. Mais c'est pas ça qui nous fait entrer. Il faut payer le billet. Pour entrer. Jésus dit la même chose à Nicodème. Nicodème, il y a plein de bonnes choses dans ta vie. Il n'a pas commencé à lui dire toutes les belles affaires qu'il avait. C'était évident. Tu es le docteur d'Israël. Tu es une personne tellement importante en Israël. Influente, respectueuse. Mais Nicodème, il manque une chose. Pour entrer au ciel, ça prend un autre élément. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Et ce que j'apprécie en méditant cette semaine, si quelqu'un m'avait annoncé quelque chose qui était si contraire à ce que je pense, c'est vous la première chose que j'aurais faite? J'aurais posé des questions. Comment ça se fait? Pourquoi? Ça n'a pas d'allure, c'est ça? J'ai toujours appris ça. Mais comment ça se fait que c'est différent? Je me serais astiné, mais ça, en tout cas, ça, c'est plus mon caractère, là. Mais il me semble que je ne me serais pas laissé présenter quelque chose de différent de ce que je pensais si facilement. Comment Nicodème réagit? Ça, c'est une pas. Il n'y a pas de pourquoi ça, comment ça se fait ça? Il dit tout de suite, comment? Comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère puis naître une deuxième fois? Et il va à comment? Il demande humblement comment faire. Et Jésus lui explique simplement comment faire. Si tu n'as pas l'assurance d'être né de nouveau, ça ne sert à rien de poser toutes sortes de questions si tu ne règles pas ce point fondamental. Comment est-ce qu'on est sauvé? Mon frère Jean disait ce matin, il disait que plusieurs personnes viennent voir le site de l'Église et ils cliquent souvent sur « Comment être sauvé? » Il dit « C'est intéressant, il dit, il me semble qu'il y a un mouvement de plus, les gens cliquent à « Comment être sauvé? C'est la bonne question. Et puis, si c'est pas sûr, vous pouvez toujours cliquer l'adresse internet de l'Église, puis aller voir comment être sauvé. Parce que c'est fondamental. Jésus lui explique comment naître dans la famille de Dieu, comment entrer dans le royaume de Dieu. Il explique que naître de nouveau, c'est naître d'en haut. En réalité, le mot grec est le même, anothen. En haut ou de nouveau, c'est le même mot. Il faut qu'il naisse d'en haut. Il faut qu'il naisse du ciel. Il faut qu'il naisse de l'esprit, il va dire. Naître spirituellement, c'est ça, naître de nouveau. Naître spirituellement à la vie d'en haut. De la même manière que les gens sont nés d'eau, sont nés de la chair, de la vie humaine charnelle d'en bas, de la même manière que tu es né d'en bas de la chair, il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu naisses de l'Esprit de Dieu, il faut que tu naisses de Dieu. Comment on fait ça? Il faut croire et recevoir. Tournez encore dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. De la même manière qu'on doit naître du naturel pour participer à la vie humaine, on doit naître du spirituel pour entrer dans la sphère de Dieu. Et Jean 1, 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça prenait pour devenir enfant de Dieu? Croire et recevoir. Et quand le croyant fait ça, il y a un geste qui vient de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. Et le verset 13 dit quoi? Lesquels sont nés, non du sang, non de la descendance physique, non de la volonté humaine, non des désirs humains. Oh, j'aimerais donc ça aller au ciel. Qu'est-ce que je vais m'arranger tout seul? C'est pas par des directives, des rites, la volonté de l'homme, des rites qu'on va au ciel. Mais c'est de Dieu. C'est Dieu qui fait naître dans sa famille ceux qui croient et reçoivent Jésus. Dieu les régénère. Il les fait naître à une vie nouvelle. Pierre, il dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » C'est Dieu qui régénère. Dieu, en régénérant, il place sa nature à lui dans le croyant. Nous sommes juste nés de façon humaine. On a besoin d'une nouvelle nature. Et pour ça, ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Et Dieu nous fait naître de lui-même. Il place sa nature dans le croyant. Dieu ne réforme pas le croyant. Il le transforme. Il commence à neuf sa vie en lui, dans le croyant. Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a quelque chose de créé qui est nouveau dans la personne. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, Jésus explique à Nicodème que quand ça arrive, cette naissance d'en haut, cette naissance spirituelle, cette naissance invisible, ça se manifeste rapidement de manière visible autour d'eux, autour du croyant. Il dit, comme le vent souffle, et est-ce que tu le vois, le vent? Tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Mais comment ça se fait qu'on sait que le vent est là? Parce qu'il y a des effets. Tu vois les feuilles bouger. Tu dis, « Hey, il y a le vent! » Je vois ses effets. Et Jésus dit, c'est la même manière. Celui qui est né de l'Esprit, celui qui est né d'en haut, celui qui est né de façon invisible, à un moment donné, ça va paraître, les effets vont être tangibles dans sa vie autour de lui. Il va avoir de nouvelles affections, il va avoir de nouvelles relations, il va avoir de nouveaux désirs, il va avoir de nouvelles habitudes de vie, toutes sortes de nouvelles choses, toutes choses sont devenues nouvelles, dit 2 Corinthiens 5. Et Jésus d'insister avec Nicodème, étonne-toi pas de ça. Tombe pas sur le dos, là. Flippe pas trop loin. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne sois pas étonné, dit Jésus, de te faire demander directement une question aussi précise et simple. Es-tu né de nouveau? Es-tu sauvé? Ne t'étonne pas qu'on t'ait demandé ça. J'espère que vous vous êtes déjà fait demander ça, cette question-là. Es-tu né de nouveau? Es-tu sauvé? Jésus, il insiste envers Nicodème en disant, ne t'étonne pas que je t'aie demandé cette question-là. Étonnons-nous pas de se faire demander, es-tu né de nouveau? Es-tu sauvé? Et ayons le même courage que Jésus devant Nicodème. Demandons aux gens, es-tu sauvé? Es-tu né dans la famille de Dieu? Pourquoi tu penses être né dans la famille de Dieu? Et peut-être que tu vas avoir des réponses qui vont t'aider à présenter le plan de l'Évangile à une personne. Voyez-vous, on peut discuter de religion bien longtemps, mais on ne peut pas passer à côté de cette nécessité incontournable. Et Jésus a eu le courage de l'adresser directement à Nicodème, et on doit avoir ce même courage. Parce que la réponse à cette question fait la différence entre le ciel et l'enfer. Il faut naître de nouveau si tu veux aller en haut. Ça, je chantais ça il y a plusieurs années, je ne me souviens plus de la toune, qu'est-ce que ça disait. Mais il faut naître de nouveau si tu veux aller en haut. Et j'entendais des phrases comme « naître une fois, c'est mourir deux fois. Naître deux fois, c'est mourir une fois. » Si vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce que ça veut dire, demandez ça à un chrétien autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je nais deux fois, je vais mourir juste une fois. Puis qu'est-ce que ça veut dire si je suis né juste une fois, je vais mourir deux fois? Demandez ça à quelqu'un. Voyez-vous, Jésus a rencontré Nicodème de nuit. Peut-être que Jésus avait besoin de dormir, ça a été rapide, il l'a interrompu, puis après ça, il est parti. Jean ne nous dit pas tout de suite qu'est-ce qui est arrivé à Nicodème après la rencontre nocturne avec Jésus. Mais à deux reprises, dans son évangile, Jean va nous montrer que Nicodème est passé d'un disciple secret à un disciple qui est devenu plein de courage. Puis aux deux autres fois où le nom de Nicodème arrive dans l'évangile de Jean, Jean fait attention de nous rappeler. Vous savez, c'est celui qui était venu de nuit voir Jésus. Tournez d'abord, s'il vous plaît, en Jean chapitre 7, verset 45. Il y a eu l'enseignement du maître. Il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème s'est identifié comme disciple de Jésus. Nicodème, dans Jean chapitre 7, il va remettre en question l'évaluation de ses pères du Sanhédrin concernant Jésus. C'est l'histoire dans Jean 7 de Jésus à la fête des tabernacles. Il enseigne la foule, et puis la foule est un peu divisée. « Ah, ça doit être le Christ. Non, ça ne doit pas être le Christ. » Alors le Sanhédrin, ils disent « That's it, on arrête ça, cette affaire-là. » Il en demande aux huissiers « Allez arrêter Jésus dans le temple. » Et les huissiers partent, puis... Comment est-ce qu'on arrête ça, quelqu'un qui fait du bien, puis qui parle bien, puis qui enseigne les vérités du ciel? Ils essayent de s'approcher, ils essayent de le prendre, mais ils se font prendre de l'enseignement de Jésus. Et ils reviennent voir les gens du Sanhédrin en disant, « Hey, personne n'a jamais parlé comme cet homme-là. On ne peut pas arrêter une affaire de même. On peut pas arrêter quelqu'un de parler comme ça. C'est tellement beau, c'est tellement bon. » Mais le Sanhédrin, lui, veut arrêter. Ses idées sont déjà arrêtées. Et ils disent, ben si les gens de la foule le croient, ben c'est pas important ça. C'est des maudits, c'est des ignorants. Nous autres, on connaît la loi, puis c'est nous autres qui décident. Regardez Jean chapitre 7, verset 45. Jean 7, 45. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduit? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, regardez les petites phrases après, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, un des du Sanhédrin, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et lui dire, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Quand les gens sont confrontés avec des vérités, des fois, ils sortent des histoires qui n'ont pas d'allure pour se défaire. Es-tu aussi galiléen? Sache qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas un prophète qui vient de Galilée. Si j'avais regardé dans le Bible, il aurait trouvé que le prophète Jonas vient de Galilée. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus était né en Galilée? Non, il était né à Bethléem, en Juda. S'il avait checké ça, il aurait pu voir où est-ce que Jésus était né. Mais, ah, non, ces fous-là, ils connaissent pas la loi. Nous autres, on connaît la loi. Nicodème dit, ben, notre loi que vous connaissez si bien, que la foule connaît pas, mais que vous connaissez bien, est-ce qu'elle condamne quelqu'un avant de l'avoir entendu? J'aime ça. Comment Nicodème critique la position de ses pères. De disciple secret, il est devenu un disciple critique et qui pouvait parler en faveur de Jésus. Regardez plus loin, Jean chapitre 19, verset 38. Nicodème à nouveau. Et cette fois-ci, c'est après la crucifixion. Jean chapitre 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, alors il y en avait des disciples de Jésus, mais qui ne se montraient pas trop publiquement par crainte des Juifs, il demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, quelques petits commentaires, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vous vous rappelez chapitre 3 là? Nicodème, c'est lui là encore là. Vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc, les deux, le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Nicodème a le courage de s'associer à Joseph d'Arimathée. À deux, on a un peu plus de courage pour obtenir de descendre le corps de Jésus de la croix pour le placer au tombeau, un privilège qui était réservé à la famille, un privilège qui était réservé aux gens les plus intimes de ce monsieur-là. Et qui sont ces les deux intimes, les plus intimes de Jésus? Ses disciples ont sacré le camp, ils ont eu peur, mais il y en a deux qui se lèvent, Joseph d'Arimathée, Nicodème, des gens du Sanhédrin. Ils ont le front d'aller voir Pilate, puis de dire, on aime Jésus, on voudrait lui donner une sépulture digne. Et Nicodème amène 100 livres d'aromates pour embaumer le corps de Jésus. En agissant ainsi, Nicodème et Joseph d'Arimathée, ils s'identifiaient directement avec Jésus, contrairement aux dirigeants religieux et devant les plus hautes instances civiles. De disciples secrets, ils sont devenus des disciples qui ont pu ouvrir la bouche en faveur de Jésus, et ils sont devenus des disciples qui sont devenus pleins de courage pour oser demander le corps de Jésus à un moment extrêmement dangereux pour leur vie, pour leur rang social, pour leur réputation. La Bible dit ne pas avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ. Voyez-vous, naître dans la famille de Dieu, c'est merveilleux. Mais comme avec toute naissance, la croissance, elle est attendue. La croissance, elle est normale. J'aime bien le bracelet qui nous parle du ciel, du péché, du sang de Jésus, de la purification, du salut. Mais aussi, il y a le verre avant le ciel. Il y a la croissance. Quand j'ai placé une bonne semence, elle pousse, elle porte du fruit. Quand je crois au Seigneur Jésus, il y a une croissance qui se manifeste. N'aie donc pas honte de cette croissance-là. La croissance est attendue, elle est normale. Naître spirituellement dans la famille de Dieu, elle va aussi produire des effets qui sont reconnaissables. Voyez-vous, le langage de l'enfant, alors nous on aura ça bientôt là. Petit bébé, puis on va certainement mettre beaucoup de pression pour qu'ils disent « grand-papa » le plus tôt possible. Mais les parents attendent des « papa, papa », puis là, le petit bonhomme, il va dire « papa, hey, là, ouh, il vient de parler, on communique ensemble. » On a hâte de ces liens-là. Et s'il fallait que le verbal sortait jamais de l'enfant, ça serait la catastrophe, parce que c'est le verbal qui définit notre communion avec notre enfant. Maintenant, vous êtes né avec Dieu. Vous êtes né de Dieu spirituellement. Qu'est-ce que Dieu s'attend? Il s'attend à ce que vous communiez avec lui, que vous lui dites des mots. Papa du ciel, je t'aime. Merci pour ton amour. Transforme ma vie. On a besoin de parler. Le premier signe de la nouvelle naissance, c'est le fait de confesser le nom du Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Regardez encore une fois Romains chapitre 10, les versets 9 à 11. Pour Paul, c'était comme indissociable, croire et confesser. Romains 10, 9 à 11. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit, si tu confesses de la bouche, puis si tu crois. Puis au verset 10, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il va pouvoir communiquer sa foi. Parce que la croyance, elle est invisible. Mais comme le vent qui souffle, elle fait toujours des effets tangibles. Et les effets tangibles de l'enfant de Dieu, c'est la notion qu'il confesse Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Je comprends, par exemple, que confesser publiquement sa foi, ça demande courage, ça demande conviction. Ça en demandait du courage pour Nicodème. Et Joseph d'Arimathée qui nous a dit que jusque-là, il était un disciple en secret. Mais si Joseph et Nicodème ont été des disciples en secret, ils n'ont pas gardé leur secret, par exemple, bien longtemps. La croissance spirituelle s'est tôt ou tard manifestée. Et si tu es né de nouveau, est-ce que ça se manifeste maintenant? Comment se porte ta confession publique de Jésus autour de toi? Est-ce que tu le partages? C'est pas facile de partager, je peux comprendre ça. Je pense à Paul et son ami Timothée. Timothée qui était un peu plus timide, je m'imagine. Et Paul encourage son ami Timothée à confesser publiquement, à pas être timide, mais à ranimer la flamme du don de Dieu. Et de ne pas avoir honte, il dit, du témoignage à rendre de Jésus. Parce qu'il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, l'inverse. L'Esprit de Dieu, son esprit, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. On a besoin de laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous. Même après notre salut, on a de la crainte. On n'est pas sûr de partager, mais c'est parce qu'on base notre confiance sur nous-mêmes. On a besoin de dire, Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité que tu m'as donné, mais ton esprit me remplit de force. Alors, je vais avancer par la foi. Je vais confesser ton nom. L'entrevue de Jésus avec Nicodème a marqué sa vie. Jésus est passé pour lui de docteur venu de Dieu à son divin maître pour lequel il était prêt à donner sa vie. Pour nous aussi, Jésus nous offre la même chose. Deux manières de naître. Naître de façon humaine, né de la chair. Il nous offre de naître de l'esprit. Il nous offre deux manières de vivre. Vivre pour soi-même, vivre pour lui. Mais il nous dit que ces deux éléments-là nous conduisent à deux destinées éternelles. Le ciel pour les croyants. Ceux qui auront refusé la séparation d'avec Dieu, la Bible appelle l'enfer. Dis-moi ce matin, est-ce que tu es né de nouveau? C'est une question tellement importante que tu dois répondre. Est-ce que tu es devenu disciple de Jésus-Christ? Rencontre Jésus à ton tour et courageusement, engage-toi comme son disciple. Ce matin, on va partager la table du Seigneur, puis elle me rappelle le courage de Jésus de s'identifier à nous. Lui, il est devenu fils de l'homme, afin que nous, on devienne fils de Dieu. Il mérite alors tout notre engagement, toute notre confiance, tout notre témoignage. Ô Seigneur mon Dieu, merci pour Nicodème. Qui a appris malgré sa haute connaissance et sa vie religieuse, qui avait besoin de naître d'en haut, spirituellement. Et Seigneur, ça l'a changé sa vie, cette entrevue-là. Par la suite, est devenu ton disciple courageux. Seigneur Dieu, donne-nous ces deux éléments de réaliser, si ce n'est pas fait, notre besoin de naître d'en haut. Et si nous sommes nés d'en haut, de croître et de manifester de façon visible notre foi en toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.